Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Et le roi leur répondra: en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, maudit au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? Alors il leur répondra: en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.
Le jugement dernier. Est-ce vraiment un sujet approprié? Quelques jours après Noël, et l'espérance que signifie cette fête pour tous les chrétiens. On peut douter fortement de la pertinence de ce choix. Châtiment, mort, désolation, voici les images terribles que porte ce terme transmis par une longue tradition. Le jugement dernier, il n'a guère de place dans les préoccupations quotidiennes de nos contemporains et de nous-mêmes. Puis, l'idée d'être jugé est franchement désagréable et, pour tout dire, déplaisante. Être jugé, non merci. Nous aimons bien porter des jugements sur les autres, mais apprécions nettement moins d'être jugés à notre tour. Enfin, et c'est sans doute essentiel, nous nous apercevons qu'il y a un véritable abîme entre le mot « évangile », qui signifie « la bonne nouvelle », et le jugement dernier, qui n'est certes pas une bonne nouvelle, mais plutôt son contraire, une mauvaise nouvelle. Pourtant, au seuil d'une nouvelle année, ce message de Matthieu a toute sa place pour nous. En effet, il peut nous aider à trouver un chemin, notre chemin, au-delà d'une mauvaise nouvelle. Voici donc d'abord le temps de la mauvaise nouvelle et de son évidence. Évidence incontournable qu'on peut bien aisément reconnaître. L'évidence d'abord du moment crucial d'un procès, à savoir ce moment où on met en accusation. Quel motif ? Non-assistance à personne en danger, dirions-nous aujourd'hui. Soit pour des croyants, indifférence à la présence, à la solitude et à la souffrance d'autrui. L'évidence aussi d'un verdict. Le châtiment éternel pour les maudits, la vie éternelle pour les justes. Ce verdict est parfaitement logique, puisque chacun, en effet, est responsable de ses actes devant la loi. Mais quelle mise en scène ! Au milieu, le Fils de l'homme, appelé le roi, dans le texte de Matthieu. Il est semblable à un berger qui, comme c'est la coutume dans la Palestine du 1er siècle, sépare les brebis et les chèvres. De chaque côté du Fils de l'homme, à droite, les bénis à qui est promise la vie éternelle, à gauche, les maudits à qui est promis le châtiment éternel. Faut-il enfin quand même souligner la présence et le poids d'une longue tradition théologique et religieuse ? Rappelons que le débat autour du jugement dernier était déjà très présent dans les communautés juives et judéo-chrétiennes du 1er siècle. En fait, Matthieu ne fait que s'inscrire dans cette tradition. Les églises d'Orient et d'Occident ensuite en ont hérité. Héritage extraordinaire, omniprésent dans notre culture d'Européens. Pensez à Michel-Ange, à Sainte-Cécile à Rome. On peut penser aussi aux fresques murales extérieures extraordinaires qui ornent les monastères orthodoxes de Moldavie, en Roumanie. Bref, le jugement dernier est une mauvaise nouvelle, évidente, effrayante. Sauvé, condamné, gentil brebis, méchante chèvre. De quoi désespérer et s'interroger et se poser des questions. Alors voici donc maintenant le temps des questions. Et des questions à foison. La première, au verset 36. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il ne s'agit pas de l'annonce d'un événement certain, proche, imminent. Il s'agit plutôt d'une mise en garde, presque d'une menace. Attention à ceux qui ne sont pas du bon côté. Verset 41. Allez-vous-en loin de moi, maudit. C'est une mise en garde, pas une information. Seconde question, qui, elle, est fondamentale, car elle change toute la perspective. Des siècles durant, en tout cas au moins jusqu'au XVIe siècle, l'Église a imposé une approche simple, je dirais simpliste, du jugement dernier. À l'heure du jugement, nos bonnes actions seraient, paraît-il, comptabilisées et nous ouvriraient les portes du salut. Quant aux pécheurs, ils paieraient déjà sur terre le prix de leur péché. Difficile de faire plus culpabilisant. Un exemple ? Nous le trouvons dans le célèbre et beau roman d'Albert Camus, La peste. La peste s'est installée à Oran. L'état de siège a été proclamé. Oran a peur. Alors, le dimanche, lors de la grand-messe, l'église est pleine. Et le père Panelou commence son prêche avec ces mots terribles, je cite. « Mes frères, vous êtes dans le malheur. Mes frères, vous l'avez mérité. » Eh bien, nous savons depuis Luther et la Réforme que cette logique culpabilisante est fausse. Non, le pardon de Dieu ne dépend pas de nos actions. Oui, il est inconditionnel, offert à chacun de nous par sa grâce et en toute liberté. Alors voilà qui déstabilise considérablement le bel édifice qui nous semblait si évident de la mauvaise nouvelle. Troisième observation, troublante, plus encore, stupéfiante. Les bénis, autant que les maudits, ne savent pas quand ils ont bien agi ou mal agi. Les uns comme les autres questionnent le roi, curieusement avec la même question. Les uns, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de venir à toi ?» Les autres, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de ne pas t'assister ?» Ils ne le savent pas. Ils ignorent totalement si leur action était bonne ou mauvaise. Bien sûr, il relève de notre responsabilité que nos actes soient conscients, réfléchis et qu'ils témoignent de notre choix de chrétien, de notre fidélité au message d'amour qui nous est confié. N'empêche, il ne nous est pas donné de savoir ce que valent nos actes. Seul Dieu le sait. Achevons maintenant de démolir le bel édifice du jugement dernier, appréhendé comme une mauvaise nouvelle. Apparemment, le berger peut facilement séparer brebis et chèvres. Mais l'homme, lui, est à la fois, en même temps, brebis et chèvres, béni et maudit. « Ange et bête !» dira plus tard Blaise Pascal au XVIIe siècle. Ces deux réalités existent en nous. Elles sont mêlées, indissociables. Alors, au terme de ce questionnement destructeur, rien ne subsiste de la mauvaise nouvelle du jugement dernier. Il nous faut donc reconstruire et nous tourner, nous diriger vers une autre rive. Mais nous voilà bien seuls. Nous sommes conscients que nos actions trouvent vite leurs limites. Alors que reste-t-il ? Il reste, après le temps des questions, le temps de la bonne nouvelle. Au centre, cette parole du Christ, verset 39, qui résonne au cœur de la parabole. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle, c'est la présence de l'autre, du plus petit, du dernier des autres, est-il écrit dans une autre version. Encore faut-il se rendre compte qu'ils existent. Encore faut-il choisir d'ouvrir les yeux, de voir ce qui nous entoure, même si c'est difficile. Très difficile de voir ceux qui nous entourent, même s'ils sont petits, même s'ils sont les derniers et peu visibles. C'est là exactement la démarche des hommes et femmes de bonne volonté, les bénévoles et notre communauté, bien sûr, en compte. On pense au service d'entraide, on pense à l'entraide protestante, on pense au secours catholique, au secours populaire. Tous ceux qui sont concernés se reconnaîtront sans problème. Alors, les yeux ouverts, l'esprit lucide, la bonne nouvelle devient vivante. Nous rencontrons l'autre. Nous rencontrons en fait le Seigneur. Verset 40. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, à l'un de ces derniers, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors où se trouve la force pour le faire? C'est une force fragile, impalpable, immense, puissante, totale, qui seule permet d'avancer et de construire la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance. La foi, alors non celle que peuvent parfois définir des théologiens prestigieux, mais seulement, humblement, modestement, cette confiance, cette certitude que Dieu est présent, qu'il agit en nous, qu'il est avec nous et qu'il nous donne sa force, la force. Et dans le même moment, cette certitude qu'il revient à nous, pas aux autres, à nous, à chacun de nous, d'avoir les yeux ouverts et l'esprit lucide. Alors, l'amour qui nous est donné à chacun est porté plus loin, plus profond, vers les autres, vers le plus petit. Même dans les gestes les plus simples. Le plus petit, qui est-ce? Le texte de Matthieu évoque ceux qui sont affamés, assoiffés, prisonniers, étrangers. La liste, en fait, n'existe pas, car elle est sans limite. Ainsi, les hommes et les femmes qui sont près de nous, que nous connaissons et que nous côtoyons, celui ou celle dont le regard nous dit le désarroi, l'attente, celui dont le visage s'éclaire parce que nous avons su trouver le geste qu'il fallait, parce que nous avons prononcé les quelques mots qui font du bien, qui éclairent tout. L'enfant près de nous qui attend qu'on l'aide à grandir, le parent, l'ami lointain qui attend nos lettres, nos messages, parce qu'ils vont faire plaisir et briser la solitude. Celui ou celle qui est dans l'épreuve et que l'on prend le temps d'écouter, d'entendre, de conseiller. Celui que l'on prend aussi le temps de voir, de regarder, de distinguer et qui en retour témoigne d'une espérance nouvelle et nous regarde différemment. Alors, nous voici bien loin de la mauvaise nouvelle du jugement dernier. Nous voici bien près de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la présence de l'autre. La bonne nouvelle, c'est l'amour reçu du Seigneur et donné à nos frères, les hommes. Amen.